Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Grand Bien vous fasse en direct en ce 8 mai 2017. Et ce matin, je vous propose une nouvelle émission consacrée à l'art de vieillir en bonne santé. Nous nous intéresserons notamment au principe de la restriction calorique qui contribue à l'allongement de l'espérance de vie. Nous verrons quelles sont les activités sportives à privilégier, comment préserver sa mémoire, pourquoi est-il fondamental d'entretenir sa curiosité et surtout ses relations sociales. Trois médecins répondent ce matin à vos questions, trois mousquetaires du bien vieillir, les docteurs Sauveur Boucris, Christophe Trival et Christophe de Gégeur, vous attendent au 01 45 24 7000 par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com et sur notre page Facebook. Et puis dans un instant, vous retrouverez la petite philo de la vie quotidienne de Thibaut de Saint-Maurice, consacrée ce matin à l'apparition de la première ride.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rébi.
Secrète.
Mais où ai-je la tête?
Mais vous n'en avez pas de tête, ma pauvre Odile. Un pois chiche. Voilà ce que vous avez là. D'ailleurs, j'en veux pas. Je suis pas craque aujourd'hui.
Pensez-vous? Vous êtes en pleine forme. Je mourrai avant vous.
Ben, j'espère bien. Et puis, recoiffez-vous. Regardez-moi ça, vous avez l'air d'une folle.
Je vais descendre en ville.
Pour aller traîner, vous êtes toujours prête. Mais par contre, pour nettoyer la lustre, c'est une autre affaire.
Là, vous recommencez à être méchante.
Je sais pas danser, mais je vois clair.
C'est long de dire des horreurs pareilles. Je préfère rien entendre. Je file.
On dit c'est une honte.
Un extrait de Tati Daniel d'Étienne Châtillier en 1990 avec Tsila Shelton. Je ne sais pas si une bonne dose de méchanceté aide à bien vieillir. On verra ça avec nos invités. Avec nous donc ce matin, trois médecins pour nous aider à bien vieillir. Bonjour Christophe de Gégeur.
Bonjour.
Vous êtes médecin gériatre, chercheur, spécialiste du vieillissement humain. Dernier ouvrage paru, Longue vie, paru aux éditions Télémaque. Et vous avez également consacré un Que sais-je aux techniques de lutte contre le vieillissement. Bonjour Sauveur Boucris.
Bonjour.
Vous êtes médecin généraliste dans un quartier populaire à Paris. Et vous avez notamment publié La fabrique des malades au Cherche Midi. Bonjour Christophe Trival.
Bonjour.
Vous êtes gériatre à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif en région parisienne. Vous êtes coordinateur du diplôme universitaire de prévention du vieillissement pathologique à la faculté de médecine Paris Sud, et vous publiez chez Robert Laffont 101 conseils pour être bien dans son âge et dans sa tête. Christophe de Gégeur, vous écrivez dans votre ouvrage que vouloir optimiser sa santé, sa longévité et être potentiellement plus résistant aux maladies nécessite avant tout un nouvel état d'esprit. L'idée, c'est que nous détenons tous les moyens d'échapper à notre destin génétique.
Alors, il y a deux choses fondamentales dans ce que vous venez de dire. Un, cette notion de destin génétique. La plupart des gens s'emprisonnent dans cette notion de fatalité. Ah, mes parents étaient comme ça. Ah, on peut pas changer les choses. Eh bien, si, on peut changer les choses. Toutes les études montrent que les gènes, bien sûr, ont une importance, mais guère plus de 30%. Donc, le reste, c'est à nous de le faire. Et pour ça, il faut avoir envie de le faire. Il faut avoir envie de se battre pour vieillir mieux. Et ça, c'est une notion qui est fondamentale et qui, malheureusement, est quelque chose qui, après la retraite, est quelque chose qui s'éteint de plus en plus. Alors évidemment, il y a plein de contre-exemples. Vous pensez tous à des gens qui vont continuer à faire du sport, à être très actifs. Et ça, c'est très fondamental. Et j'espère qu'ensuite, on va discuter qu'est-ce que ça veut dire faire du sport, qu'est-ce que ça veut dire rester actif, parce qu'elle est juste chercher son pain à la boulangerie qui est à 100 mètres. C'est pas ça, faire du sport. C'est pas ça, avoir une activité physique suffisante. Donc je crois qu'aujourd'hui, le véritable enjeu, c'est d'ouvrir la porte. Savoir qu'à 60, 70 ans, 80 ans, la vie, elle est pas terminée. On peut faire des choses, on peut vieillir le moins mal possible, mais on peut aussi se mettre sur cette position importante qui est de dire « je vais vieillir le mieux possible, je vais gérer mon capital santé, je vais le faire progresser contre le vieillissement ».
Et il s'agit d'un combat quotidien. L'idée, c'est de redéfinir nos priorités.
Je crois que oui, il faut garder en tête que la vie, alors c'est ça qui est pas forcément facile à gérer dans nos têtes, c'est que souvent quand on approche de la retraite, on se dit on a bossé toute sa vie, maintenant on est tranquille et que les autres s'occupent de nous. Non, il faut continuer à combattre et combattre pour rester en bonne santé. Alors combattre, ça peut être un plaisir, S'occuper des autres, ça peut être un plaisir. Aller se promener, ça peut être un plaisir. Jouer avec les autres, ça peut être un plaisir. S'occuper d'autres. Et ceux qui vieillissent le mieux sont toujours ceux qui restent intellectuellement actifs, ceux qui ont des projets. C'est 100% de ceux qui vivent bien ont des projets. Et pas simplement à la Tati Daniel, hein.
Alors, il y a 15 jours, nous vous avions délivré quelques conseils nutritionnels qui contribuent au bon vieillissement. Et un auditeur nous a écrit pour nous dire qu'il s'agissait de conseils banals. Christophe Trival.
Bah effectivement, c'est tout à fait banal, c'est classique, on n'a rien révolutionné, mais après le tout c'est de s'y astreindre et de tenir quoi. Les fruits et les légumes, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'il y a de mieux, les antioxydants ils sont dans les fruits et les légumes, mais il faut en manger suffisamment. Et globalement, si on étudie soit au niveau de la France, soit au niveau international, les gens ne mangent pas par exemple assez de fruits et de légumes, mangent trop de viande, pas assez de poisson, etc. Donc c'est banal, mais il faut le faire.
Sauveur Boucris.
Oui, c'est du bon sens, mais comme vieillir, c'est inéluctable et ça fait partie, je dirais, de notre parcours de vie. Et justement, tant qu'on est en vie, il faut avoir envie de bien vivre. Et c'est pas parce qu'on en a 70 ans ou 80 ans qu'on se dit on est au banc de la société. Aujourd'hui, la population française, elle est constituée de plus de 20 ou 25% de plus de 65 ans. Mais aujourd'hui, on vit de plus en plus vieux. Et je dirais que entre 65, je dirais l'âge de la retraite, et 75 ans, on se sent pas vieux. On est toujours actif, on voyage, on peut participer à des tas d'associations, etc. Entre 75 et 85, là, peut-être, on commence à sentir, entre guillemets, le coup de vieux. On marche moins vite, on prend peut-être des médicaments pour l'hypertension, pour l'arthrose, etc. Et au-delà de 85 ans, et je sais pas, sûrement mes confrères vont me le confirmer, là, on est réellement vieux. Mais je dirais, on a de la marge, quoi. Au-delà de 65 ans, on a au moins 10 à 20 ans où on peut bien vivre, ou bien vieillir.
Christophe de Gégère.
Oui, par rapport à la réflexion de votre auditeur, conseil banal. C'est vrai, mais c'est vrai que quand dans des émissions grand public, on est obligé de rester sur des choses qui peuvent convenir au plus grand nombre. Mais en réalité, il a également très raison. C'est-à-dire que nous sommes très différents les uns des autres, nous avons des métabolismes qui vieillissent différemment et qui vont faire qu'à terme, et c'est déjà vrai à 40 ans, mais c'est vrai a fortiori à 60 ou à 80, nos besoins ne sont pas les mêmes. Et qu'il faudrait rentrer dans une médecine qui soit très personnalisée pour pouvoir dire à Madame X ou à Monsieur Y, pour vous, eh ben, des fruits c'est bien, mais... pas trop non plus, parce que ça apporte beaucoup de sucre. Certains peuvent bien le métaboliser, d'autres pas. Donc là, il y a un écart fondamental entre ce que la médecine et la science nous apportent en connaissance de l'homme, avec des conseils extrêmement personnalisés qu'on peut donner, et effectivement, la moyenne des grands conseils de santé publique, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à un micro?
Et on reviendra tout à l'heure notamment sur la restriction calorique que vous préconisez, docteur De Gégère. Allez, il est temps de retrouver la chronique de notre ami Thibaut de Saint-Maurice.
La petite philo de la vie quotidienne.
La vérité n'est jamais amusante à dire, sans ça tout le monde la dirait.
Thibaut de Saint-Maurice.
Et vous avez l'intention de me la dire?
Oui.
Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Alors ce matin, interrogation philosophique sur l'apparition de la première ride.
Voici la nouvelle ère des soins anti-rides.
Alors contre vos rides, vous aimeriez quoi?
Moins de blabla, plus de résultats visibles.
Moins de rides, plus de fermeté. L'ovale du visage est redéfini.
Vous voulez voir du changement sur vos rides? Alors changez de soin.
Vous avez en vous un anti-ride naturel, le coenzyme Q10.
Résultat, je parais 50 mois, comme moi. Faites confiance au numéro 1 de l'anti-ride.
Plus efficace que jamais contre les rides.
Voilà, alors petite compilation de publicité pour des crèmes anti-rides, vous en aurez peut-être reconnu certaines. Parce que les rides sont d'abord donc des signes de la vieillesse contre lesquels on demande de lutter, qu'il faut masquer, combler, dissimuler, voire éliminer en ayant recours à de la chirurgie. Alors la première ride, c'est surtout le signe que le temps a passé et que l'on ne peut rien contre lui. Et puis ensuite, l'approfondissement et la multiplication des rides nous rappellent tous les matins, face à notre miroir, que nous ne sommes pas éternels et qu'il nous faudra donc mourir un jour. La ride est le signe de la vieillesse, de cette vieillesse dont la vie commence à se retirer, de cette période où la vie serait moins intense, moins tendue, puisque notre peau commence à se détendre justement, à se plisser et à se creuser par endroits. Les rides sont donc un signe de notre finitude.
C'est pour cela, Thibault, que l'on cherche à tout prix à s'en débarrasser.
Oui, et surtout en cette nouvelle époque, hein, où même les plus hautes fonctions sourient à la jeunesse. En tant que signe de la vieillesse, donc, les rides sont particulièrement mal vues dans une société et une culture qui valorisent tellement la jeunesse. Mais au risque de vous surprendre et de creuser un peu davantage vos rides du front, on a peut-être tort de faire la guerre à nos rides. Parce qu'un visage sans rides, au fond, sans marque, serait aussi un visage sans expression. Je hais le mouvement qui déplace les lignes, écrit Baudelaire dans un poème où il fait parler la beauté minérale d'une sculpture. Un visage sans rides est un visage sans mouvement, sans émotion pour déplacer les lignes, justement. Bref, le visage d'un homme déjà mort. Tant qu'il y aura des rides, donc, cela signifie surtout que nous sommes vivants, et plus singulièrement que notre visage reste bien le support visible de nos émotions et de nos expressions. Nous ne pouvons rien contre le fait que nos rides apparaissent et se creusent sur notre visage, mais nous pouvons donner du sens à nos rides.
Et c'est pour cela qu'Albert Camus disait qu'après un certain âge, tout homme est responsable de son visage.
Eh bien exactement, et l'on retrouve là la grande idée de Camus selon laquelle l'existence n'a que le sens que nous pouvons lui donner, en assumant son absurdité. Oui, le temps passe, oui, nous vieillissons, oui, nous devrons laisser la place un jour, quitter tous ceux que nous aimons, et oui, c'est cruel et ça n'a apparemment pas grand sens, mais tout ça en même temps, nous sommes libres de le refuser ou d'y consentir. L'absurdité de l'existence, l'absurdité du temps qui passe et de ces rides hein, qui se creusent un peu plus, eh bien cette absurdité-là, elle ne touche en rien notre liberté. Au contraire, notre liberté s'en trouve, pour ainsi dire, consacrée. Alors, nous ne pouvons rien contre l'apparition des rides, mais nous pouvons faire en sorte de devenir l'ami de nos rides. Voilà, c'est mon petit conseil. En choisissant de quoi elles seront les signes. Et si nous en faisions alors les témoins de tout ce qui nous a émus, de tout ce que nous avons exprimé, comme nous avons ri dans cette vie, comme nous avons pleuré, comme nous avons été surpris. C'est aussi comme cela que nous vieillirons mieux, parce que nous resterons maîtres de nous-mêmes et que nous ne ferons pas que la vieillesse, comme disait Montaigne, nous attache plus de rides en l'esprit qu'au visage.
Le regard de nos deux médecins gériatre, Christophe de Gégère.
Oh, moi, je trouve que l'aspect ride est passionnant parce qu'il est également le reflet de la vision de notre société. On ne s'intéresse qu'aux apparences. Et c'est d'ailleurs ce qui fait le triomphe d'une certaine médecine, où on va simplement gommer, faire un ravalement. Alors que ces rides sont également le reflet du vieillissement interne du corps et doivent nous amener à réfléchir sur le mode de vie, sur ce qui se passe à l'intérieur de ce corps. Et pour nous, médecins, c'est quelque chose de passionnant parce que ça nous donne plein d'ouverture pour la prise en charge. Juste gommer la ride, c'est dire « je me ferme les yeux devant une réalité ». Et ça, c'est dramatique. Il faut toujours associer à l'esthétique une prise en charge interne.
Christophe Trival.
Oui, ben ce que j'ai retenu là, c'est que tant qu'il y a des rides, il y a de la vie, quoi. Donc ça, c'est déjà un message très important.
Sauveur Boucrise.
Oui, ben les rides, c'est le reflet de ce qu'on a vécu, et c'est ce qui compte, c'est de vivre et de ne pas se résigner qu'au-delà d'un certain âge, comme disait Romain Gary, votre ticket n'est plus valable. Voilà, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'action, il y a de la volonté, et il faut pas, se résigner. Alors c'est vrai qu'un jour, nous fermerons les yeux et nous quitterons ce monde. Mais si on a bien vécu, eh ben je crois que c'est ça qui est le plus important.
Merci Thibaut de Saint-Maurice, la petite philo de la vie quotidienne. C'est tous les lundis dans Grand Bien vous fasse, une émission préparée par Alexa Rivière et Lorraine Bess avec l'aide de Clara Marliot. Et c'est réalisé par Claire Destacan. Questions, réactions, témoignages, 01 45 24 7000.
Catherine the Great, let's talk of love and the power of the state. She was a crazy, spontaneous girl. Everyone paid homage to her. Catherine the Great, there were few brainier. Just ask the king of Lithuania. She could dictate what went on anywhere. She had great hair and a powerful gait, Catherine the Great. Catherine the Great. She could converse with the best. She knew Voltaire, Diderot, and the rest. She might have conquered a third.
city girl, Catherine the Great, with her military might. She could defeat anyone that she liked, and she looked so bloody good on a horse that they couldn't wait for her to invade. Catherine the Great.
Qu'est-ce que c'est bon, The Divine Comédie, à 10h27, Catherine the Great.
France Inter, grand bien vous fasse.
10h28, comment bien vieillir? C'est le deuxième volet de notre émission sur ce thème, avec trois mousquetaires qui ont prêté le serment d'Hippocrate, Christian de Gégère, Sauveur Boucris et Christophe Trival. Christophe de Gégère, comme le dit le dicton populaire, on creuse sa tombe avec ses dents. L'allongement de la durée de vie dépend donc de ce que l'on mange, et vous préconisez la restriction calorique. La restriction calorique permet de réduire la mortalité et la morbidité de trois pathologie majeure, c'est ça?
Alors, première chose, c'est tout ce qui a concerné... Il y a eu d'énormes expériences, de très nombreuses expériences sur la restriction calorique chez l'animal, qui ont toutes montré qu'il y avait effectivement une diminution de la morbidité et une augmentation de l'espérance de vie de ces animaux. C'est très ancien comme expérience. Il y a eu McKay aux États-Unis, ensuite Roy Valfort qui a beaucoup écrit, et puis régulièrement c'est republié. Alors moi, contrairement à ce que vous dites, je ne recommande pas la restriction calorique, et en particulier pas chez le sujet âgé, parce que le problème du sujet vieillissant, c'est justement qu'il se dénutrit très facilement, qu'il s'alimente déjà très mal, et mes confrères vont le confirmer, je pense, et si en plus il se met dans une logique de restriction calorique, donc déjà alimentation déséquilibré et pauvre, et ensuite restriction calorique, je veux dire, on ne va que vers la pathologie.
Vous la préconisez bien avant, alors ?
Alors, je l'ai défendu un certain temps, et c'est l'époque où j'avais écrit mon Que sais-je, parce qu'effectivement, quand vous faites de la restriction calorique, alors la restriction calorique, ça veut dire simplement manger ce qu'il faut en termes de calories, sans déficit, sans carence. Sans carence, qui est compliqué à faire, hein. Mais à ce moment-là, là, vous perdez du poids. Vous perdez réellement du poids. Il faut y associer toujours de l'exercice physique, sinon c'est délétère. Et quand vous avez les deux, eh ben, vous voyez que votre tension baisse, votre sucre baisse extraordinairement, votre cholestérol baisse plus qu'avec n'importe quel médicament. Et ça, c'est parfaitement démontré. Mais c'est pas agréable comme situation, parce qu'on a faim. On a faim. Et moi, j'avais ouvert à l'hôpital une consultation de ce type il y a une vingtaine d'années, si c'est pas 25 maintenant. Mais les gens sont pas heureux. Et on peut pas donc conseiller à quelqu'un dans une perspective de longévité quelque chose qui va le stresser. C'est pas possible. Donc il faut être beaucoup plus intelligent. Et maintenant, on a d'autres moyens de conseiller l'alimentation aux gens.
Par exemple ?
Eh bien, j'en reviens à ce que je disais au départ. Il faut adapter. Vous, si vous venez... Ou par exemple notre ami Sauveur ou Christophe, ils ont pas les mêmes besoins. Il faut identifier leurs besoins. Ils n'ont pas la même composition corporelle, la même masse maigre, la même masse grasse. Ils n'ont pas le même métabolisme du sucre. Donc il faut connaître tout ça pour pouvoir leur donner des conseils qui sont adaptés à chacun. Et c'est là où on arrive avec, et j'insiste, c'est pas un régime. Il faut pas faire de régime. Le régime est quelque chose qui est contre notre santé, qui est péjoratif à la santé. Il faut une hygiène alimentaire intelligente et qui doit obligatoirement se conjuguer avec de l'exercice physique. Si vous ne faites pas d'exercice physique, vous êtes à côté de la plaque.
Sauveur Boucris.
Oui, bien sûr. L'alimentation et la nourriture, c'est pas que des calories. C'est évidemment des calories, et il faut savoir ce qu'on mange, riche en graisse, en sucre, etc. Mais moi, je pense que c'est très important, et surtout pour les personnes âgées et très âgées, c'est le plaisir, c'est la convivialité. Et je dis toujours, moi, à mes patients, mieux vaut manger de temps en temps un bon repas avec des amis, même parfois bien arrosé, vous avez pris peut-être des milliers de calories, que de manger tout seul sa petite soupe chinoise devant sa télé en étant frustré, quoi. Voilà, je pense que le bonheur et le plaisir de partager des bons moments contribuent au bien-être et à la santé physique et mentale.
Docteur Trival, vous préconisez la restriction calorique ?
Enfin, je préconise pas la restriction calorique, mais après, ça dépend effectivement à quel âge on se place, quoi. Si on se place sur des gens de 20, 30 ans ou des gens de 70 ans. Ce qu'il faut, c'est que globalement, dans nos sociétés riches, en tout cas, on mange beaucoup trop. Et on mange plus que nos apports conseillés. Donc l'idée, c'est de se mettre au moins à la limite inférieure des apports conseillés et de faire de l'exercice.
Bonjour, messieurs. Rentrez, rentrez.
Il reçoit toujours les caméras, avec l'enthousiasme débordant d'un jeune premier. Mais à presque 105 ans, il faut juste lui parler un peu plus fort.
C'est quoi votre secret? Qu'est-ce que vous faites?
Vous voulez que je vous montre? Ah, voilà, pour les bras, n'est-ce pas? Une vingtaine de fois ça, n'est-ce pas? On doit toujours faire travailler ses muscles.
Robert Marchand a le goût du défi. Il y a 2 ans, il battait son propre record d'endurance des cyclistes de plus de 100 ans. 26 km 927 parcourus en 1 heure. Il aurait voulu faire mieux.
Le cycliste Robert Marchand, âgé donc de 105 ans, qui a récemment accompli un exploit record de l'heure cycliste dans sa catégorie 22,5 km et 140 battements de cœur en moyenne par minute en période d'effort. Robert Marchand qui a vu défiler 17 présidents de la République. Il avait 66 ans quand Emmanuel Macron est né. Et j'aimerais signaler que l'Indienne Man Kaur, âgée de 101 ans, est championne du 100 mètres dans la catégorie des centenaires, record établi en 74 secondes. Soit 1 minute et 4 secondes de plus qu'Usain Bolt. Bonjour Claude, bienvenue.
Bonjour.
Vous appelez de Pézenas et vous avez 82 ans.
J'aurai 82 ans le 1er août, voilà, je suis né en 1935. Je fais du vélo tous les jours, et quand c'est pas possible, je fais du vélo d'appartement, quand il pleut ou quand il fait froid.
Vous êtes un genou à côté de Robert Marchand, Claude.
J'espère pouvoir arriver là, mais bon. On croise les doigts, je ne prends aucun médicament, je ne fais aucun régime, je mange de tout raisonnablement. Mm-hmm. Et puis, voilà, tout va bien. Je suis ancien sportif, je suis moniteur de ski diplômé d'État, je suis ancien maître nageur, j'étais plongeur aux pompiers quand j'étais jeune. J'ai 1 kilo de plus que lorsque j'avais 18 ans.
Bravo.
Voilà, et mon médecin me dit que s'il n'avait des clients que des clients comme moi, il mettrait la clé sous la porte. Alors, je croise les doigts pour que ça continue. Vous parliez de gènes tout à l'heure. Ma maman m'a donné, comme vous l'avez dit, 30% de gènes. C'est 30% que je garde précieusement parce que ma mère était une battante aussi. Voilà, tout va bien. Et je pense qu'il faut bouger. Il faut pas rester planté devant sa télé. Et puis, c'est surtout dans la tête, quoi. Parce qu'on dit, à mon âge, qu'est-ce que vous voulez? Je peux plus faire ci, je ne peux plus faire ça.
Alors,
ça,
vous faites bien le vieux, Claude. Voilà. Docteur de Gégère.
Oui, félicitations. Mais ce qu'on voit là, ça, c'est un homme qui est un sportif depuis toujours. Donc, il a continué. Le grand enjeu aujourd'hui, bien sûr, il faut les encourager à continuer, mais le grand enjeu aujourd'hui, c'est de remettre des gens au sport à 50, 60, 70 ans. Et on peut le faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué, mais qui doit se faire qu'avec le conseil du médecin. Car il y a des contre-indications, il y a des sports qu'il faut mieux éviter, adapter. Il y a des vraies règles qu'il faut savoir respecter.
Alors, le sport est bon pour la santé et la longévité, mais pas tous les sports et pas n'importe comment, docteur de Gégère.
Il faut, ce qui va compter, c'est quoi? C'est principalement les sports qui vont permettre des sports qu'on appelle aérobiques, c'est le cardio-training en réalité. Le cardio-training nécessite 3 choses qu'il faut bien garder en tête. Nécessite une certaine durée d'exercice, une certaine intensité, une certaine fréquence dans la semaine. Et à ce moment-là, ça va avoir vraiment des effets très positifs sur l'ensemble du corps, mais également le cerveau. Et ça a été bien démontré sur des publications il y a quelques années. Ça permet d'augmenter certains facteurs de croissance cérébraux qui vont permettre aux cellules sous-cérébrales, elles, de se développer. Ça va permettre une meilleure plasticité cérébrale et de lutter contre les maladies neurodégénératives. Donc vraiment, le sport est quelque chose de fondamental. Encore faut-il le faire correctement.
Docteur Trival, quelle est la bonne intensité?
L'intensité, on peut définir des intensités minimum. Chacun essaye de faire le moins d'exercices possible. On est tous un petit peu feignants.
Vrai
que à partir de 5 minutes de course par jour et de 15 minutes d'exercice modéré par jour, on gagne déjà 3 ans d'espérance de vie.
Mais c'est par exemple atteindre 75% de la fréquence cardiaque maximum?
C'est très médical, là. Après, l'objectif, c'est si on veut qu'il y ait une impression d'exercice, parce qu'on a dit tout à l'heure, aller chercher la baguette à 100 mètres, c'est pas suffisant. Soit on fixe des objectifs en nombre de pas. Par exemple, 10 000 pas par jour, c'est un objectif qui a été fixé au niveau du Japon. On a fait des études là-dessus, c'est entre 8 000 et 13 000 pas par jour, déjà on a un bénéfice. Et si on veut quantifier de façon simple un exercice physique, c'est dès qu'on commence à avoir un peu de transpiration ou dès qu'on est un peu essoufflé. Là, il commence à y avoir vraiment un exercice.
Mais il y a un paradoxe, docteur De Gégère. Il y a beaucoup de grands athlètes qui connaissent souvent un vieillissement accéléré.
Ah bah oui, mais là vous allez dans la performance. Quand on parle de performance, on use plus l'organisme. Là, il s'agit de l'entretenir intelligemment. Donc on n'est pas du tout dans la performance. On est dans l'entretien régulier. Et cet entretien régulier va avoir un impact sur le métabolisme. Va avoir un impact sur le métabolisme des sucres, des graisses. Et va vous permettre également d'être cérébralement plus fit, plus présent, plus dans la société. Mais, encore une fois, c'est d'après nos grandes études, et c'est vrai que c'est, comme le dit Christophe Trival, c'est très médical, mais faut viser une heure, et une heure, c'est pas deux fois 30 minutes. Alors, il faut y arriver. Le mot clé, c'est progressif. Quand vous n'avez aucun entraînement et que vous visez une heure à 75% de la fréquence cardiaque maximum théorique pour l'âge, là, c'est sûr que vous allez faire du mal. Donc, faut surtout pas faire ça comme ça. Il faut y arriver progressivement. Comme un sportif, c'est vraiment quelque chose qu'on monte et qui dépend des uns et des autres. Et j'aimerais revenir en un mot sur une chose qu'a dit le précédent auditeur. Il a dit, j'ai juste un kilo de plus qu'à 18 ans. Alors, c'est vrai qu'on est très fiers de ça. Mais quand vous faites des compositions corporelles, et même si vous avez le même poids qu'à 20 ans, eh bien vous voyez que, non pas forcément chez le sportif, mais dans la population générale, tout change. Vous avez le même poids, mais vous avez moins de muscles, moins d'os, moins d'eau et beaucoup plus de graisse.
Docteur Trival, pourquoi recommandez-vous le Tai Chi Chuan ?
Enfin, juste, je voulais compléter sur les champions olympiques et sur le Tour de France. C'est quand même, il y a une étude française qui a montré que les Français champions olympiques et ceux qui ont passé les cyclistes, ils ont 6 à 7 ans d'espérance de vie supplémentaire quand même. Donc même à un très haut niveau, c'est bénéfique.
Sur le Tai Chi Chuan, vous le recommandez dans votre ouvrage. Oui, 1500 articles scientifiques ont été consacrés à cette gymnastique chinoise douce qui allie corps et esprit et qui est inspirée du taoïsme.
Quand c'est étudié dans la littérature, on gomme un peu le côté philosophique, quoi. On garde plus que le côté exercice physique. Et c'est quelque chose qui peut se faire jusqu'à un âge très avancé, à 85 ans, même en étant très dépendant. On peut faire des exercices parce que ces exercices, des fois, il peut y avoir que les bras, que les jambes. Et c'est des exercices très lents, répétitifs. Et c'est bénéfique sur l'hypertension, par exemple, ça fait descendre la tension artérielle, sur l'agilité, sur la souplesse, sur l'équilibre, sur le risque, ça diminue le risque de chute, ça a énormément de bénéfices.
Et puis sur les fonctions cognitives également.
Également, oui.
Bonjour Den, bienvenue.
Bonjour.
Vous appelez de Grimaud.
Oui, j'appelle de Grimaud et c'est avec plaisir que je vous apporte un témoignage, étant pratiquant d'aïkido depuis un peu plus de 50 ans.
Ah bon ?
Ayant toujours été sportive moi-même, et après avoir enseigné cet art martial pour lequel il n'y a pas de compétition aux enfants, ensuite, vieillissant moi-même, j'ai partagé cet art avec des seniors. J'ai un petit recul de 5 ans maintenant, ça se pratique sur un tatami. Donc il y a le plaisir, tout ce que vous dites est vraiment, c'est vrai, très intéressant. Il rejoint mon témoignage, il y a le plaisir de se retrouver. Tout le monde est en kimono, donc tout le monde est en kimono blanc et c'est très agréable. Ça se passe sur un tatami. Mmh. Et effectivement, alors vous parlez beaucoup de muscles, mais là, nous on travaille plutôt l'énergie. On a les muscles, bon, si on n'a pas été des grands sportifs comme les témoins que vous avez écoutés, on n'en a plus beaucoup.
Mais c'est quoi le grand principe de l'aïkido, Den ?
Le principe de l'aïkido, oui. Si vous voulez, c'est basé sur l'esquive, c'est-à-dire si on est attaqué sur un coup, au lieu de reculer et d'avoir peur, on esquive ce coup. Et par des déplacements qui sont assez subtils, il y a une technique assez difficile. Donc ça occupe énormément l'esprit pour intégrer cette technique. Et en même temps, voilà, il y a la respiration, il y a évidemment on ne fait pas les chutes, puisqu'il y a des chutes dans l'aïkido. Et donc c'est à la fois joyeux, donc les personnes apprennent à la fois à se défendre, à ne pas avoir peur d'un coup qui vous vient sur le visage, que ce soit un coup de poing, une claque, une saisie. Et donc, ça fait travailler les articulations. Il y a une gestuelle, puisqu'on fait des taisabaki. C'est un déplacement qui est très important, qui permet de se sortir de la ligne d'attaque. Et tout ça se passe dans la joie, et les personnes sont très heureuses de se retrouver. voilà.
Thibaut de Saint-Maurice, je sens que vous allez vous mettre à l'aïkido.
Oui,
je
sais pas pourquoi. Ça me tente, mais ce que je trouve intéressant, c'est que dans le témoignage qu'on entend, et ça rejoint aussi une partie des réflexions, c'est que, en réalité, ce qui a l'air de fonctionner, hein, le Conseil général, c'est de ne pas considérer d'abord le corps et puis ensuite l'esprit de façon séparée. Et dans cette pratique-là, décrite par l'auditrice que je ne connais pas, mais ce que je trouve symptomatique, c'est que finalement, c'est toute la personne. On parle d'énergie, pas que de muscles. Donc c'est à la fois la santé du corps, bien sûr, mais aussi le corps habité, le corps incarné. Et je pense que l'approche comme ça, un peu globale, un peu moniste, pour employer un mot compliqué, mais c'est-à-dire de unifier du corps et de l'esprit, est aussi une des clés du bien vieillir. Enfin, je soumets ça à Christophe Gégé.
Oui, c'est complètement évident. C'est vrai que des fois, on morcelle, et ça, c'est typique des médecins, on morcelle les choses. Mais comme on l'avait dit au départ, l'esprit est à la base de tout. Il faut avoir envie de le faire. Et il faut avoir envie d'aller vers les autres. Et à ce moment-là, l'exercice sportif, par exemple, tel que nous, on le conseille dans ma structure, ça va être, bien sûr, tout ce qui est cardio training, mais ça va être de la musculation et ça va être tout ce qui va être travaillé justement, tai chi et autre chose, gestion du corps dans l'espace, assouplissement. Et évidemment, quand on est heureux, tout ça devient une pratique collective et qui va permettre d'aller beaucoup plus loin. Et c'est donc un ensemble qui est toujours, toujours dans cet esprit de bonheur et de positivité.
Sauveur Boucris ?
Absolument. Ouais, le mental, ça compte énormément. Au-delà de 60 ans, cherche pas la compétition, fera pas les Jeux Olympiques, mais on veut améliorer ses performances, progresser, mais je dirais franchement dans la joie et la bonne humeur, et faire des sports un peu, je dirais, collectifs. Si vous voulez faire du tennis, mieux vous jouez au double, c'est plus facile et c'est meilleur pour le cœur. Si on fait du vélo, le faire en
tandem.
Non, mais ça permet un petit peu de se stimuler et de garder cet esprit convivial, qui est très important.
Ouais, docteur Strival.
Oui, les deux, voilà, c'était ça. C'était le plaisir, la convivialité et le lien social, oui. En fait, parce que là, les auditeurs en ont parlé, mais c'est le contact avec les personnes, on est en groupe, quoi. Et ça, c'est fondamental.
Merci beaucoup, Dan, de nous avoir appelé. Nous verrons dans quelques instants comment préserver sa mémoire et ses fonctions cognitives quand on vieillit. 01 45 24 7000.
So
Sam and Dave Soulman.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h47, comment bien vieillir, un sujet inépuisable en compagnie de trois médecins qui ne font pas trop leur âge, Christophe de Gégère, Sauveur Boucris et Christophe Trival. Bonjour Arlette.
Bonjour.
Bienvenue, d'où appelez-vous ?
D'un bled en Haute-Savoie où il est très facile de vieillir et voilà pourquoi dans 15 jours je m'en vais, je pars ailleurs.
Alors quels sont vos recettes ou vos conseils pour vieillir possible ?
Non, des recettes non plus. Moi quand j'entends tous vos intervenants parler de sport, de nutrition, bon c'est bien joli tout ça, mais moi la seule chose que je n'ai pas entendue c'est le don, le partage, l'écoute, l'amour des jeunes, l'amour. Moi j'avais la maison hier pleine de gens entre 35 et 40 ans qui essayaient mes jeans et qui me disaient oh ben écoute celui-là il irait pas mal, ben prends-le ma chérie. Voilà, je fais du fitness depuis très longtemps, depuis toujours. Beaucoup de sport, j'en ai fait aussi. Mais à 68 ans, avec un col du fémur et de l'ostéoporose, le sport, ça n'empêche pas les problèmes, les pathologies. Moi, mon grand credo, c'est d'aimer les jeunes, d'aimer les gens qui se sentent aimés par vous. Donc, ils vous soutiennent. C'est un tissu de jeunesse et de comment dire, et puis avoir des projets. Voilà, moi, j'ai tout vendu jusqu'à ma dernière culotte, ma maison, mes meubles et tout, et je m'en vais. Toute seule.
Christophe de Gégère.
Et elle s'en va très loin ou... Non, je crois que, là encore une fois, bon, on ne peut pas en une heure tout voir et parler de tout, mais je crois que c'était en permanence, dans tout ce que nous disions les uns et les autres, il y a cette volonté d'aller vers l'autre, il y a cette volonté de bonheur, etc. Si on est un profond dépressif, isolé dans son coin, et qui déteste les autres et la vie, c'est sûr qu'on va pas participer à des programmes de longue vie, c'est évident. Et je pense que donner, bien sûr, ça va de soi. Honnêtement, ça va de soi.
Merci beaucoup Arlette de nous avoir appelé. Pourquoi est-il essentiel de lutter contre l'isolement pour bien vieillir ? Pourquoi l'isolement accélère-t-il le vieillissement et augmente le risque de mortalité, docteur Trival ?
L'isolement, c'est le contraire du lien social, quoi. Hein. Donc, les personnes qui sont isolées, qui sont toutes seules, vont moins bien vieillir. Et il y a des facteurs d'isolement, des fois, contre lesquels on peut lutter assez facilement. Par exemple, avec l'âge à partir de 50 ans, on commence à avoir une perte d'audition. Un petit peu, la presbyacousie, et il faut la détecter assez tôt et il faut s'appareiller. Si on n'est pas appareillé, on va s'isoler. C'est les personnes dans les repas familiaux, par exemple, qui n'entendent plus, du coup, ils n'entendent plus les conversations, ils ne participent plus à la conversation. Au départ, ils font répéter, mais au bout d'un moment, ils en ont marre de faire répéter parce qu'ils disent je répète toujours la même question. Voilà, ils ont un peu honte finalement de faire répéter. Ils s'isolent et c'est un facteur aussi qui va engendrer de la dépression, des problèmes cognitifs, etc.
Christophe de Gégère.
Oui, moi je pense que si on s'intéresse maintenant au cerveau, parce que c'est vrai que ce cerveau, il est au cœur, c'est le chef d'orchestre un petit peu, eh bien il faut qu'il soit toujours en activité. Cette activité passe forcément par le rapport aux autres, ça peut être sa famille, ça peut être des amis, ça peut être des associations. Et encore une fois, c'est la troisième fois, et je fais écho à ce que disait cette dernière auditrice, à chaque fois, ce qu'on retrouve chez toutes les personnes qui vieillissent bien, pas simplement longtemps, mais bien, c'est justement le contact aux autres. D'accord ? Il y a toujours cet intérêt pour les autres et ce bonheur de vivre. Donc, à partir de ce moment-là, le cerveau, il est stimulé. On va continuer à écouter des choses, on va continuer à apprendre des choses. Ce qu'il faut, c'est jamais rester dans ce fatalisme du retrait du vieillissement. Ah, on oublie un truc, oui, c'est normal, on vieillit. Ah, on a mal à un genou, c'est normal, on vieillit et donc on cesse d'aller plus loin. C'est ça qu'il faut briser. S'il y a une chose, à mon sens, qui est essentielle, c'est garder en tête toujours l'horizon et aller plus loin.
Sauveur Boucris ?
Oui, tout à fait. Je partage évidemment tout ça. Il faut éviter le repli. Mais dans ce qu'on n'a pas dit, et je pense que c'est important, il y a les activités physiques, il y a les activités sportives, alimentaires, mais aussi les activités, je dirais, sexuelles. Je dirais qu'on n'en parle pas assez, mais au-delà de 60 ans, 65 ans, on ne peut avoir une activité sexuelle. Alors évidemment, c'est pas forcément des performances sexuelles comme on avait 30 ans, mais le fait de danser, de se prendre la main, d'avoir des caresses, de se parler, fait partie un peu de cette stimulation et on se sent moins vieillir parce que on est en vie, quoi. Alors je pense que les clubs du troisième âge où l'on danse, les salons de thé, etc., sont des bons moyens à la fois de créer du lien social, mais pourquoi pas aussi des liens érotiques et sexuels.
Christophe de Gécher.
Alors, tu as tout à fait raison de parler de ça, mais je crois qu'il ne faut pas simplement penser au club du troisième âge. Je pense que la personne âgée ou le senior a sa place dans la société en général. Et j'aime bien quand ils vont vers des plus jeunes. Et moi, je suis très frappé par les plus actifs, ils sont toujours en contact avec des plus jeunes. Parce que c'est là où ils sont stimulés, c'est là où ils partagent, c'est là où ils apprennent. Alors bien sûr, certains sont plus rassurés avec des groupes de leur âge, et il faut les encourager, et il n'est jamais trop tard. C'est ça le grand mot.
Christophe Strival, l'une des grandes craintes quand on avance en âge, c'est d'avoir la mémoire qui flanche, de ne plus se souvenir de rien. Est-ce inexorable, quand on vieillit, de perdre la mémoire sans forcément être atteint d'une maladie neurodégénérative type Alzheimer ?
Non, pas du tout, c'est pas inexorable. Ce qui se passe, c'est que plus on avance en âge, plus le risque augmente. Mais par contre, tout le monde ne sera pas forcément, heureusement, Alzheimer, on n'aura pas forcément des troubles de mémoire. Après, si on fait des comparaisons, on prend un groupe de jeunes, un groupe de gens plus âgés, on leur fait apprendre une liste de mots, on leur demande le lendemain la liste des mots. Les jeunes vont s'en souvenir plus facilement, mais les gens âgés, si on leur donne des indices qui les orientent vers les mots, ils vont les retrouver aussi la liste exactement pareille. Et tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, l'alimentation, l'exercice physique, la sexualité, la danse, etc., etc., tout ça, ça permet de lutter contre les problèmes de mémoire. Et le lien social, les connexions, être curieux, être avec des jeunes, etc., ça, ça fait pousser vos neurones et ça crée des synapses. Et les synapses vont protéger votre mémoire. Plus vous avez de synapses, plus vous avez une réserve cognitive importante et plus votre mémoire, vous allez la garder longtemps.
C'est ce qu'on appelle la neurogénèse ?
La neurogénèse, effectivement. On pensait jusqu'à récemment que les neurones, on avait un capital à la naissance et puis qui s'épuisait au cours de la vie. Maintenant, on a découvert que finalement, on crée quand même 700 neurones nouveaux tous les jours. Et donc, il faut arriver à les entretenir, ces neurones nouveaux. Et ils ne survivent, ces neurones nouveaux, que si l'on s'en sert. La mémoire et le muscle, c'est pareil. Si on s'en sert, on le garde. Si on s'en sert pas, ça s'atrophie, on le perd.
Il est bon, par exemple, de faire des mots croisés, des grilles de sudoku, de jouer aux cartes, Christophe Strival.
C'est bon et voilà. En fait, plus on a d'activités de ce type-là, meilleur c'est. Mais le mieux, c'est le bridge, les échecs. Bon, le mot croisé, c'est un petit peu moins bon, et le sudoku, c'est un peu en dernier. Mais chacune de ces activités s'additionne.
Christophe de Gégère.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il faut savoir, là encore, s'ouvrir à la vie. Il ne faut pas être prisonnier d'une activité. Moi, j'ai toujours un peu peur des gens qui disent « Écoutez, j'entretiens ma mémoire, je fais des mots croisés. » Et on se rend compte que même dans certaines pathologies neurodégénératives, on garde une aptitude. Donc, ne travailler qu'un seul aspect de son vieillissement cérébral n'est pas une bonne chose. Il faut être ouvert à tout. Il faut savoir multiplier les choses. Et ce que moi, j'adore faire, c'est toujours, et c'est un grand challenge pour certaines personnes âgées, c'est les mettre à l'informatique. Parce que ça, c'est une autre langue, un autre monde. Et quand ils arrivent à faire ça, c'est fabuleux. Il y en a qui font déjà depuis toujours, mais ça peut être un challenge intéressant.
Sauveur Boucris.
Oui, j'ajoute, attention, parce que les personnes âgées prennent beaucoup, par exemple, de tranquillisants. Et les tranquillisants et les somnifères retentissent en des effets négatifs et néfastes sur la mémoire. Et on voit des personnes âgées qui disent, attendez, je viens d'oublier ce qu'on vient de me dire, ou les clés de mon appartement, etc. C'est souvent dû, pas forcément à l'âge, mais à l'utilisation des tranquillisants.
Docteur Strival, dans votre ouvrage, vous affirmez que la lecture contribue à freiner le déclin de la mémoire. Vous citez une étude américaine publiée en 2016 portant sur 3635 personnes de plus de 50 ans, suivies sur une période de 12 ans, et qui nous dit que la lecture détient un impact sur l'espérance de vie, et il faut lire au moins 30 minutes par jour, hein, et pas des magazines, ni des journaux.
Oui, voilà, oui, bon, après, toutes ces études, c'est toujours un peu discutable, parce que c'est difficile à analyser. Mais l'étude montrait que c'est seulement la lecture de livres qui a été bénéfique, et le fait de lire, parce qu'il y a beaucoup de gens, on dit, moi je pose la question systématiquement en consultation, qu'est-ce que vous lisez, etc. Les gens disent, lisez des magazines ou le journal. Mais ça, c'est pas bon pour la mémoire.
Bonjour Mireille.
Bonjour monsieur.
Nous allons conclure avec vous. Vous appelez de l'Isère. Vous avez 85 ans. Et vous êtes plutôt en bonne forme.
Oui, je suis en bonne forme.
Et pourquoi donc, Mireille ? Expliquez-nous tout.
Ben écoutez, je pense d'abord, je n'ai jamais accepté mon âge. Mm-hmm. Je n'en ai jamais fait une fatalité, disant, bon, ben, on a l'âge qu'on a, il faut l'assumer, et ne pas dire, je suis vieille, je ne fais pas ça, je ne peux plus. Donc, moi, je continue, si vous voulez, de participer un peu à la vie active dans le village, le club de l'association de l'amitié, une chorale, également le Téléthon, où j'anime une équipe de tricoteuses qui font des objets pour les décorations de Noël depuis déjà plusieurs années, une association qui marche très très bien. Donc, bon, malheureusement, j'ai perdu mon compagnon voilà 10 ans, et je ne me suis pas enfermée dans mon veuvage.
Merci.
Ça ne m'empêche pas de souffrir toujours de l'absence de mon mari, mais malgré ça, je ne me suis pas enfermée, pas repliée sur moi-même.
Merci.
Et je pense que ça vient probablement du caractère.
Merci beaucoup, Mireille. Nous vous souhaitons longue vie, et avec Thibaut de Saint-Maurice, on va se mettre au tricot. Hein ?
Ah oui, plein de croix.
Merci, docteur Christophe de Gégère. Longue vie est publiée aux éditions Télémac. Merci d'être venu. Merci, docteur Christophe Strival. C'est un conseil pour être bien dans son âge et dans sa tête est publié chez Robert Laffont. Merci, Sauveur Boucris, d'être venu à la technique ce matin. Grégory Vallon et Ludovic Asselot. Demain, on se demande comment bien vivre dans une famille nombreuse. Racontez-nous tout si vous avez vécu dans ce type de famille. Grand bien vous fasse à radiofrance.com. À suivre, Nagui et sa bande originale.